L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, nous parlons théâtre, puisque le 10 et le 11 avril, les Quinconces donnent une représentation de Don Juan, célèbre pièce de Molière, mise en scène par David Bobet. Pour en parler, je suis avec Marie-Emeline Lézot. Bonjour.
Bonjour.
Puis on écoutera Joachim Duval de l'association Récit pour nous parler de leurs actions, et notamment de la table ronde du 5 avril sur l'énergie citoyenne. Tout de suite, on écoute notre premier invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Marie-Emeline Lézot, vous êtes responsable des relations avec le public pour le Théâtre des Quinconces. Vous êtes venue nous parler du Don Juan de David Bobet, qui sera représenté le 10 et 11 avril au Quinconces. Alors, avant de parler de cette mise en scène de David Bobet, il nous faut d'abord présenter cette pièce Don Juan de Molière. De quoi parle-t-elle ?
Alors, Don Juan, est-ce qu'on la présente encore ? C'est peut-être même ça le sujet.
Pour ceux qui seraient passés à côté, oui.
Donc, Don Juan, c'est un des grands textes du répertoire français. On est là sur un texte de Molière. C'est une comédie, hein. Un grand texte du théâtre classique de la fin du XVIIe. Molière a présenté cette pièce au Palais Royal en 1665. Elle a été éditée après, 20 ans après. C'est une grande pièce du répertoire, comédie en 5 actes, en prose.
Et en prose, alors que les autres pièces de Molière étaient plutôt écrites en vers.
Ouais, tout à fait. Et celle-ci, c'est un vrai parti pris, un peu radical. Et qu'est-ce qu'il nous raconte là, Molière ? Bon, c'est une expression très populaire, hein, faire son Don Juan aujourd'hui, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Là, c'est vraiment les 36 dernières heures de la vie d'un jeune homme qui s'appelle Don Juan Tenorio. D'ailleurs, le titre de la pièce, c'est Don Juan ou le festin de pierre. Donc, c'est vraiment le titre original. Et Tenorio, ça veut dire esprit fort. Et comment il dépeint cette pièce, enfin, en tout cas ce personnage, bah, c'est un grand amateur de femmes, un seigneur libertin et complètement inconstant, quoi.
Et alors, comme vous l'avez dit, le personnage de Don Juan, c'est devenu une véritable icône, un topos. Mais qu'est-ce qui a fait en fait le succès de cette pièce et le fait qu'on la joue toujours, même aujourd'hui ?
Bah, je pense que c'est une belle écriture au final. Je pense que quand David Bobet, le metteur en scène que l'on accueille là pour cette production, il a mis le nez dedans, je pense qu'il a été surpris lui-même par l'écriture qui est finalement assez poétique, où il y a un récit qui est assez drôle, un vrai humour très clair et en même temps très subtil. Et je pense que c'est très populaire, le Don Juan qu'en fait Molière. C'est du comique de situation, c'est du vrai rire. Et donc la comédie, ça marche toujours.
Alors du coup, c'est une pièce qui a très souvent été jouée, très souvent été mise en scène. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui à s'attaquer à Don Juan ? Est-ce que la pièce n'est pas éculée à force de représentation ?
Alors je pense que depuis sa création, ce Don Juan a été mis en scène dans des versions très classiques. Je pense que là, on est sur du costume d'époque, on a cette imagerie-là, la comédie française, des mises en scène pas très radicales, pas tant clivantes que ça, contrairement à celle de David Bobet que l'on accueille là, où là, ça déménage un peu plus quand même.
Alors, on va en parler plus en détail, mais au-delà d'un caractère potentiellement répétitif, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque à monter Don Juan aujourd'hui ? Parce qu'en effet, c'est un personnage de séducteur masculin qui considère les femmes comme des objets de plaisir. C'est plus vraiment à l'ordre du jour, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par David Bobet ?
Ah bah complètement. C'est vraiment son sujet. C'est de déboulonner cette image de libertin misogyne, séducteur, insupportable, qui lui... Il le dit lui-même, qu'il lui fait vomir et qu'il exècre. Et justement, c'est de prendre ce personnage et de dire « mais qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui ?» Et c'est vraiment son projet à lui de metteur en scène et aussi directeur du Théâtre du Nord à Lille. C'est de nous dire, de reprendre en tout cas des textes du répertoire, des grands textes, des grands auteurs, et de les remettre au plateau aujourd'hui pour nous raconter une histoire. Qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui ? Bah en fait, son adaptation qu'il en fait, c'est pas vraiment l'imagerie qu'on a du Don Juan séducteur, comme il dit, du vieil esprit français, mais il va un peu nous déboulonner tout ça et nous raconter une histoire plutôt qui est liée à la domination de cet homme sur la société dans laquelle on est aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut en dire un peu plus d'ailleurs sur ce metteur en scène, David Bobet ?
Alors ouais, David Bobet, on a une relation un peu particulière avec lui parce qu'on l'a accueilli il y a 2 ans pour une représentation de Viril. Qui était au plateau donc avec Béatrice Dalle et Virginie Despentes, notamment sur des textes assez engagés. On l'a accueilli récemment avec Jamil Mohamed pour une tournée dans les établissements scolaires sur le festival Enjeu, qui était une interprétation aussi des textes, de grands textes du répertoire. Bah, David Bobet, c'est un des plus grands metteurs en scène aujourd'hui en France, qui reprend énormément de textes du répertoire pour nous raconter des histoires et pour surtout dépeindre notre société d'aujourd'hui sur un rapport de domination, mettre au plateau les diversités, les corps, les origines sexuelles, les origines sociales très diverses, et pour nous dire, mais en fait, ce donjon-là, il pourrait être ça aujourd'hui.
Donc pour concilier ses engagements avec la mise en scène d'un personnage aussi rétrograde que peut l'être Don Juan, vous l'avez dit, en fait, l'entreprise de cette mise en scène, c'est de destituer Don Juan, de le faire tomber de son piédestal, en quelque sorte. Mais alors, comment ça se concrétise, en fait ?
Alors, en fait, lui, ce qu'il dit, clairement, David Bobet, c'est d'en dépeindre la misogynie, quoi. Lui, c'était de dire, voilà, ça nous raconte ça, ce séducteur complètement insupportable, qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui ? Eh ben, il va le situer, cette histoire, dans un décor monumental, et je pèse mes mots, parce que c'est complètement inclassable. On se situe dans un cimetière complètement en friche et à l'abandon, de statues déboulonnées. D'ailleurs, ce mot revient beaucoup quand on l'entend parler, mais ça se retrouve aussi dans sa scénographie. Des statues, il y a 4 grandes figures de statues référencées sur la mythologie, énormes, dans lesquelles les comédiens et les danseurs et les chanteurs-musiciens, puisque c'est vraiment une œuvre vraiment plurielle, sur une multiple palette d'art au plateau. Et donc, dans cette scénographie XXL, vont se promener, vont raconter une histoire, ces personnages. Donc, on retrouve évidemment Don Juan, accompagné de son fidèle valet Sganarelle. Et puis, avec tous ces villageois qu'il va rencontrer sur son chemin, vont être aussi dans une diversité au plateau, puisque c'est des danseurs, plutôt d'origine asiatique d'ailleurs. Donc voilà, il va vraiment avoir ce souci-là. Et puis avec une inspiration très forte musicale. Là, on a entendu tout à l'heure un extrait que j'ai reconnu de la pièce. Mais voilà, c'est aussi des rythmes très percutants, une musique presque aussi un peu électro à un moment. Donc voilà, c'est très contemporain en fait, sa mise en scène.
Je veux rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, sur tous les éléments de décor, une mise en scène très profuse. C'est vrai que quand on regarde le trailer, on voit de la danse, on voit des statues géantes, une guitare, on voit du plâtre, beaucoup de plâtre qui recouvre les acteurs.
Ouais.
Donc ça a l'air d'être une mise en scène effectivement très généreuse, voire peut-être encombrée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors encombré, je ne sais pas si on peut dire encombré, en tout cas monumental, ça c'est sûr, on ne peut pas passer à côté.
Même avec toute cette profusion, David Bobet, il arrive à garder un équilibre.
Ouais, parce qu'en fait, je pense que la palette de couleurs est très sobre, on est dans du blanc, du gris, du noir et du rouge très puissant qui arrive à un moment sur un travail de lumière très léché. Finalement, cette construction monumentale va apparaître et disparaître, c'est très léger, avec des mouvements de scénographie qui sont tellement légers que toutes ces 4 grandes mythologies vont s'effondrer, donc vont disparaître et vont laisser un plateau nu seulement avec les comédiens.
D'accord. Okay.
Donc en fait, finalement, ça paraît
petit à petit.
Tout à fait. Ouais, ça va être complètement déconstruit et on va avoir ce Don Juan en pleine face, surtout sur la dernière scène, le cinquième acte, avec ce rouge puissant. La seule couleur qui arrive, c'est quand même cette couleur rouge qui dénote dans cette scéno toute blanche et toute grise de pierre, quoi.
Alors, je reviens encore juste un peu sur cette histoire de faire tomber Don Juan de son piédestal, d'en faire en fait un anti-héros. Parce que dans la pièce de Molière, en fait, comment le personnage est traité ? Est-ce qu'il est traité en héros chez Molière ?
Ah non, je pense pas. Je pense que... D'ailleurs, quand Molière a joué cette pièce, au tout départ, il jouait le rôle de Sganarelle, ce qui est intéressant.
D'accord, ouais.
Il jouait le rôle du valet. Et je pense que volontairement, il n'a pas choisi d'interpréter le rôle de Don Juan. Je pense que le sujet de Molière, c'est de dépeindre avant tout la société dans laquelle il vit, et de s'en amuser.
D'accord.
Donc là, il s'amuse du personnage de Don Juan pour raconter une histoire en disant « bah voilà ce que c'est ». par ce personnage, il va dépeindre, bah, je pense aussi le rôle des hommes, ça peut-être un peu en filigrane, mais surtout la société dans laquelle il vit, le rapport de la ville à la campagne avec ses villageois, le rôle du commandeur sur l'esprit, le lien à la religion. Enfin, il y a beaucoup de thématiques en fait qui sont abordées dans cette pièce.
Mais alors du coup, qu'est-ce qui change drastiquement dans le traitement de ce personnage entre Molière et David Baumet ?
Bah, qu'est-ce qui s'en change ? Je pense que David Baumet, il va là où il a envie de percuter. Donc, il va volontairement casser les codes et il va, lui, vraiment s'intéresser à ce personnage de Don Juan dans toute sa misogynie, dans tous ces personnages affables, et il va le dénoncer. Et il va dire, mais en fait, ce serait ça, aujourd'hui, le personnage de Don Juan, ce séducteur-là, on a envie de ça aussi. Est-ce que ça fait vraiment rêver aujourd'hui, ce vieil esprit français ? Je pense qu'il a envie de casser tout ça, ouais.
Alors en tout cas, David Baumet, semble avoir mis à l'honneur le sous-titre de la pièce, le festin de Pierre, avec ce plâtre qui recouvre tout, dont les acteurs se recouvrent. Quel est ce rôle du plâtre en fait dans la pièce ?
Le rôle du plâtre, il est assez présent. Je pense que c'est très ancestral, c'est lié à la pierre, le festin de Pierre. Et je pense qu'il a joué là-dessus. Le personnage de Pierrot, qui est un villageois, le rapport à la terre, le rapport aux monuments, casser les monuments, monuments du texte, monuments de tout ce que ça nous raconte. Et puis le plâtre, il va se dissoudre, il va se transformer en sable. Il va y avoir un mur vraiment assez percutant, le jeu du sable, tout ce qui se délite. En fait, c'est très poétique ce qu'il nous raconte. Mais tout ça reste dans une lecture extrêmement politique aussi.
Et du coup, le personnage de Don Juan qui se recouvre de plâtre, il devient une statue qui appartient au passé, quoi. C'est
ouais,
ça
exactement. D'accord. Exactement, c'est vraiment l'esprit. C'est une statue, il se statufie. Et puis après, le final, je ne vous le dis pas parce que l'idée, c'est de venir.
Pas
Mais au final, qu'est-ce qui va se passer ? Il va quand même un peu se morfondre. Et voilà.
Mais alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir divulguer chez ou pas, mais je me demandais si ce plâtre, ce n'était pas aussi un rappel continu de la statue du commandeur, épisode absolument fameux de la pièce qui fait intervenir le fantastique. Alors, est-ce que cette statue apparaît dans cette mise en scène ? Car en fait, c'est une scène qui est interprétée de diverses manières selon les mises en scène. Alors, comment David Baumet s'en empare ?
Alors, c'est très subtil. Le rôle du commandeur, il est vraiment interprété par un personnage qui est très massif, très important. On a ce spectre-là, c'est cette lumière aussi qui est assez profonde sur ce personnage-là. Et c'est le rappel aussi du personnage du père aussi, sur Don Luis, qui va apparaître à ce moment-là. Donc je pense que ça n'a pas dû être un sujet assez facile, puisque c'est aussi le lien à la religion, l'esprit et la fin de ce personnage, la déchéance finalement de Don Juan. Donc le plâtre, il raconte un peu tout ça. Et c'est une mise en abîme, en fait, au fond, je pense.
Alors, autre chose frappante, quand on regarde le trailer, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, le rouge, c'est la seule couleur en fait qui apparaît. Ouais. Donc, on remarque beaucoup cette obscurité contrastée avec le blanc du plâtre. On a l'impression que la pièce est en noir et blanc. En fait, la couleur se fait rare, y compris sur les costumes. Qu'est-ce que ça produit comme effet, ce traitement de la couleur et de la lumière ?
C'est assez percutant et très efficace, parce que la couleur, elle va arriver vraiment tardivement. Je pense que, après, je ne suis pas dans la tête de David Baumet, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu le spectacle l'année dernière, c'est vraiment pour moi très fidèle à la fureur, quoi. La fureur, la colère, le phénix, quoi. C'est vraiment le personnage qui va prendre tout son corps, qui va s'affirmer, qui va se confronter à tous ses ancêtres et à sa mère, à son père, à tous ceux qui vont le juger. Et donc, c'est là qu'il va s'affirmer pleinement et qu'il va finir par se dire, je pense, c'en est fini, quoi. C'en est fini de ce jeu, de ma filouterie. J'ai été malin jusqu'alors, mais peut-être que maintenant, ça va me revenir. Donc, je pense que cette couleur-là, elle arrive à un moment où aussi le traitement de la musique arrive aussi très puissant.
La musique est très importante aussi.
Très forte. Très forte. Et on a cette grande mise en abîme où ils sont tout en haut, lui et Elvire, où Elvire se venge avec ses frères. Et lui, il va être comme au bout de l'échafaud, et c'est la chute, c'est la fureur, la colère et en fait les profondeurs, quoi, de cette fin de cet homme.
Alors, au tout début de cette émission, quand vous présentiez la pièce de Don Juan, vous parliez d'une comédie. J'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur le ton de la comédie. Là, j'ai même plutôt l'impression qu'on est sur de l'angoisse, en fait. Non.
Alors, comédie, il y en a même qui disent que c'est une tragicomédie au départ, quand Molière l'a créée.
C'est vrai que la fin est peu comique quand même.
Ouais, c'est moins drôle sur la fin.
À part la dernière réplique de Sganarelle, mais.
Ouais. Après, il y a quand même des personnages qui sont fortement humoristiques. Je pense à Sganarelle, le valet complètement filou, fantasque, qui est quand même particulièrement drôle et qui amène de la légèreté, de la rondeur. Non.
C'est ça, en fait, c'est l'élément comique d'une pièce qui n'est pas forcément, en fait.
Bah finalement, c'est pas si drôle, en fait. Mais le rôle de Sganarelle et puis plein de personnages qui peuvent paraître un peu secondaires, mais qui sont amenés aussi par des insertions musicales avec un guitariste, du chant très fort aussi, très beau. Donc en fait, on va être donc aussi dans du comique de situation qui forcément va nous faire rire.
Alors un mot sur les acteurs, est-ce qu'ils sont convaincants, notamment Radouane Lefali dans le rôle principal ?
Bah, c'est un des acteurs, je crois, un des comédiens aujourd'hui qui est un des plus en vogue, qui a fait des grandes mises en scène aujourd'hui. Il est extrêmement percutant, il a un rôle qui lui va à ravir parce qu'il traite le texte, il a une présence au plateau qui est assez incroyable, qui n'est pas du tout dans un emploi qu'on aurait pu imaginer sur ce rôle de Don Juan, dans toute l'imagerie qu'on pourrait en avoir. Et puis, la connivence avec le rôle de Sganarelle, qui est joué par Chad Hardy Garvey Mongondo, qui est aussi drôle, qui amène vraiment toute cette légèreté avec la musique, avec le chant, avec tout cet aspect humoristique, vont faire qu'il y a une diversité au plateau qui rend la pièce extrêmement contemporaine et légère et à la fois très profonde.
Et alors, est-ce que David Bobet a dû adapter le texte de Molière pour correspondre davantage à sa vision, à la chute d'une icône ?
C'est le texte 100%. Je crois qu'il a changé un mot. Dans l'ensemble du texte, il l'a adapté, ça c'est évident quand on a une transposition contemporaine sur le texte d'origine, mais il n'a rien touché au texte.
D'accord.
C'était vraiment un souhait et c'est vraiment son travail, c'est vraiment sa force de frappe. Il ne change rarement les textes qu'il travaille au plateau aujourd'hui.
Alors on se retrouve dans quelques instants, on va juste écouter tout de suite le trailer de la pièce.
Il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui. Il me fait voir tant d'horreur. Un grand seigneur méchant homme est une terrible chose, mais il faut que je lui sois fidèle en dépit de ce que mon âme déteste. Qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle.
Donc on vient d'écouter le trailer de Don Juan de David Bobet. Alors, en résumé, ce Don Juan, il aborde des questions et des thèmes qui sont à l'opposé des préoccupations du Don Juan de Molière. Est-ce que c'est un tour de force réussi pour vous, de votre avis de spectatrice ?
Ah bah ouais, là on est vraiment dans quelque chose de plein, d'entier, de construit, total. Enfin, c'est une interprétation pleinement contemporaine. Il y a du texte, du grand texte, il y a de la drôlerie, du comique, de la poésie. Il y a une scéno incroyable, c'est du grand divertissement, du grand show. Faut savoir aussi que David Bobet, il a fait pas mal d'opéras et pas mal de grosses formes, donc on retrouve tout ça. Donc plus la musique, ça nous embarque dans un gros show, quoi. Donc vraiment c'est vraiment un très très beau spectacle.
Et vous aviez déjà vu d'autres mises en scène de Molière ?
Alors, de Molière, oui, mais de ce donjon-là, non. Donc, d'accord. Finalement...
Ah oui, pardon, de donjon, je voulais
ouais,
dire.
Ouais, de celui-là, eh ben non, finalement, c'est ma première fois vraiment au théâtre et je suis ravie.
Ok. Ouais, vous aviez jamais vu d'autres donjons avant, quoi.
Non, moi, j'en ai l'image, voilà, très, très classique, très comédie française, quoi. Là, non, finalement, au plateau, en vrai, sur du spectacle vivant, finalement, c'est mon premier donjon et je suis pas déçue.
Ouais, donc à l'avenir, ça va être difficile de vous impressionner avec un donjon, du coup.
Ça va être dur.
Alors enfin, est-ce que vous voudriez nous annoncer de prochains spectacles au Quinconce ?
Alors oui, peut-être un mot sur l'actualité du moment. On va rentrer la mi-avril dans un autre gros temps fort de fin de saison qui s'appelle Vivant Vivante, du 16 avril au 9 juin. Donc on a tout un temps fort un peu festival sur la question de notre rapport au vivant, les questions de biodiversité et qu'est-ce que ça veut dire être vivant aujourd'hui. On aurait presque pu mettre aussi donjon dans ce temps fort. On a plusieurs rendez-vous, il ne faut pas hésiter à regarder la programmation, mais quand même deux, trois spectacles à ne pas louper. Je pense à Dédicace, qui est un hommage à la radio sur nos souvenirs de radio. Donc là, on accueille Fabrice Melchio, qui va vous nous faire une performance donc, le 27 avril. Donc c'est tout gratuit, donc là, jeune ou moins jeune, faut y aller, il ne faut pas hésiter, au Petit Théâtre des Quinconces. On retrouve Fabrice Melchio, donc auteur associé au Quinconce sur une proposition qui s'appelle Chouchouter. Et chez Chouchouter, c'est notre rapport aux gens, aux plus jeunes, aux plus âgés, et comment dans cette journée, on va aussi être amené à penser le rapport à l'autre, le soin. Et ça, c'est une journée toute gratuite aussi. Ça s'appelle La Pensée Joyeuse et c'est le samedi 25 mai, tout à l'Espal. Okay. Et puis, on ne fait pas de pacte avec les bêtes, Justine Berthiaud sur du cirque et de la musique avec Anne Passeo sur du jazz, grande batteuse de jazz. Donc, faut pas hésiter à s'inspirer de la programmation et prendre des risques et de venir.
Eh bien, merci pour toutes ces informations. Je vous remercie Marie-Amélie Lézo pour être venue nous parler du donjon de David Baumet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle que donc, ce donjon mis en scène par David Baumet, c'est au Quinconce le 10 et le 11 avril. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Loïc Lantoine et The Very Big Experimental To Be Free Orchestra le 19 avril à 20h au Grand Théâtre des Quinconces en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Mensfiltia Cavalier.
Thank you.
continuer la suite de cette émission en écoutant l'interview de Joachim Duval qui nous parle de l'association Récit, on écoute une deuxième musique, UZMV, Les Mains Libres.
Je me rappelle, c'était toi qui disais que tu serais toujours là. Dans mes rêves, on est deux. Y'a 10 secondes avant que tout ça dégénère. Toi tu mens, t'es plus là. Technique vaudou quand tu dis mon nom. Et t'as du mal, je le vois. Tu mets ma photo quand tu tires là. On s'abandonne et c'est trop tard. On se condamne à vivre un truc infernal. Y'a tout qui est fermé, si tu penses à tout que fais-le. J'parie qu'à de la fenêtre, il faudra qu'une brique pour entrer. Sous ton cœur y'a des bleus, moi je m'en souviens plus. C'est encore le double, moi qui te regarde sous la pluie. C'est pas comme au début, non. Regarde tout ce que je mets dedans. Chaque fois que je fume, j'ai l'impression que mon cœur se nettoie. C'est vrai que je suis inconscient. J'ai beau l'avoir partout, je suis encore seul. Les mots n'effacent pas tout, je lui accorde ça. Je veux plus la voir partir, mais j'adore ça. Je suis inconscient. J'ai beau la voir partout, je suis encore seul. Les mots n'effacent pas tout, je lui accorde ça. Je veux plus la voir partir, mais j'adore ça. Ça fait longtemps que je marche, mes yeux deviennent gris et mes jambes me lâchent. Si je m'allonge, je meurs. Allez, il faut que je monte. Il reste un long chemin, bientôt j'arriverai pas loin de chez nous. Je fais que l'imaginer, toute seule avec une fausse image de moi. Elle pense que je suis mort peut-être, ou que je me rappelle plus d'elle. Quand je la verrai, je lui dirai que je l'aime, que j'ai dû traverser un lac gelé. Je sais même pas comment j'en suis arrivé là. Peut-être que j'ai dormi, je me suis pas réveillé. Les souvenirs reviendront quand elle sera là. Tu m'abandonnes, et c'est trop tard. Je serai qu'un pantin jusqu'à être à toi. Mais pourquoi je t'aime autant? J'ai le cœur brisé, tu contre-attaques. Je vais pas faire demi-tour, moi dans mes yeux y'a que les tiens. Tu me vois quand je tombe, c'est toi qui m'efface. J'ai tout fait pour t'emmener, mais tu laisses aucune trace. Tu sais, je ne dors plus, moi. Je sais que toi t'as plus mal. Je le vois dans tes yeux, mais les miens deviennent plus noirs. C'est vrai que je suis inconscient. J'ai beau te revoir partout, je suis encore seul. Les mots n'effacent pas tout et je t'accorde ça. Tu veux plus me voir partir, mais t'adores ça. Je suis un fantôme. Rentré dans mon cœur, t'as fait un hold-up. Il me faudrait une armée pour tenir longtemps. J'ai marché pendant des mois dans les montagnes.
De retour dans l'amphi pour écouter Joachim Duval nous parler de l'association Récit et de la table ronde qu'elle organise autour de l'énergie citoyenne. Pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places gratuites pour le cinéma Les Cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Joachim Duval pour Récit.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Je suis avec Joachim Duval, animateur réseau chez Récit, qui vient nous parler d'une table ronde sur l'énergie citoyenne qui aura lieu ce 5 avril et présenter donc cet organisme Récit. Bonjour Joachim Duval.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pourriez commencer tout simplement par nous expliquer ce que c'est que Récit ?
Récit, c'est le réseau régional des énergies citoyennes en Pays de la Loire. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner des initiatives citoyennes qui émergent un petit peu partout dans la région pour porter des projets d'énergie renouvelable, donc toutes filières confondues, éolien, solaire notamment.
Et alors, quelles sont les missions que vous menez pour mener à bien cet objectif ?
Eh ben, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accompagne beaucoup des collectifs de citoyens. Donc, en général, c'est quelques dizaines de personnes à l'échelle d'une intercommunalité qui veulent se rendre utiles, qui veulent faire des actions concrètes pour la transition écologique, et du coup qui vont monter des projets de production d'énergie renouvelable. Et nous, notre rôle chez RECI, c'est de mettre en réseau tous ces acteurs-là dans la région, d'accord, pour éviter qu'ils réinventent l'eau chaude de chacun de leur côté, et pour être sûr qu'ils se transmettent bien les outils, les bonnes pratiques, les retours d'expérience, pour s'entraider et puis réussir à mener à bout leur projet et produire une électricité locale et renouvelable.
Et alors vos actions, en fait, elles sont fondées sur la conviction que ce sont les citoyens qui doivent aménager les territoires.
Oui, tout à fait, c'est ça. Le but, c'est vraiment de se dire qu'on a besoin d'avoir ce relais local avec des habitants pour être dans l'action et puis pour faire des projets aussi qui soient le plus bénéfiques possible au territoire. Parce qu'on a vraiment cette approche de favoriser à la fois la pédagogie autour de l'énergie et puis de maximiser aussi les retombées économiques locales de manière plus pragmatique.
D'accord. Et alors, de qui est composée l'équipe de RECI ? Est-ce que c'est des professionnels, des bénévoles ? Comment c'est constitué ?
Donc RECI, c'est une association. On est financé par l'ADEME, donc branche de l'État. Okay. On est financé aussi par la région Pays de la Loire et un petit peu par le département de Loire-Atlantique également. On a une échelle régionale. Dans notre équipe salariée aujourd'hui, on est 5 et on s'appuie en fait surtout sur des bénévoles qui viennent piloter cette association-là. Et donc les bénévoles, bah, c'est des membres des collectifs dans les territoires. Ça peut être aussi des élus ou des salariés de collectivités territoriales.
D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, un de vos objectifs, c'est de promouvoir les énergies citoyennes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça un peu plus ? Qu'est-ce que c'est, en fait, ces énergies dont on parle ?
Donc, le concept de l'énergie citoyenne, c'est vraiment de produire localement de l'énergie, mais de manière collective. C'est-à-dire qu'on va un petit peu au-delà du fait de mettre les panneaux solaires sur sa maison. Là, le but, c'est bien de regrouper les gens ensemble, de monter un projet d'envergure, donc c'est des projets au minimum de plusieurs dizaines de milliers d'euros et au maximum de quelques millions d'euros.
D'accord.
Et le but, ça va être que les gens, en fait, investissent ensemble dans ces projets-là, mais qu'on soit pas simplement sur un placement financier, mais qu'on soit bien à la gouvernance des projets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre les décisions, donc de se dire, bah, chez quel industriel on va aller se fournir en matériel, jusqu'où est-ce qu'on va faire des adaptations, par exemple, pour limiter l'impact environnemental de notre projet. Donc, il y a toute une batterie de choses, en fait. Il y a un label qui s'appelle le label énergie partagée.
D'accord.
Qui vient garantir un peu les grands piliers de l'énergie citoyenne, qui sont du coup l'ancrage local, okay, la gouvernance démocratique, la finalité non spéculative, notamment.
Ok, d'accord. Et RECI propose aussi des rencontres et des formations. Alors, c'est sur quel sujet ? C'est sur comment apprendre à construire un projet d'énergie citoyenne ? Est-ce qu'il y a d'autres formations comme ça ?
C'est ça. Donc, nous, on accompagne la montée en compétences des citoyens sur des domaines très vastes. Parce qu'en fait, à travers leur projet d'énergie renouvelable, évidemment, il va y avoir tout un volet technique. Donc, on va les faire monter en compétences sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur les grandes phases d'un projet. Et puis, il va y avoir aussi des volets plus autour de la communication. Donc, comment présenter son projet, comment en parler autour de soi, à ses voisins, comment faire un ciné-débat, des choses comme ça. Et puis, on va avoir aussi des volets juridiques. Donc là, il y a toute une notion de faire des projets qui rentrent dans le cadre légal, hein, évidemment. Donc, en fait, c'est aussi un bel outil de pédagogie, d'éducation populaire, l'énergie citoyenne.
Ok. Et donc, vous accompagnez ces projets donc, par un apport de connaissances, mais aussi par un apport financier, c'est ça ? Donc, est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont été mis en avant par RECI ?
Oui, bien sûr. On peut donner l'exemple, par exemple, dans le pays de Redon. Il y a plusieurs parcs éoliens citoyens qui ont été financés et portés par les habitants du territoire.
D'accord.
Et donc ça, par exemple, ça a permis de créer près d'une dizaine d'emplois sur le pays de Redon, et puis de mener des actions de pédagogie sur la production d'énergie renouvelable, mais aussi sur tout ce qui est économie d'énergie, mobilité douce. Donc en fait, on a un peu cette vitrine, on va dire, qui est le projet de production,
d'accord,
autour duquel on peut monter tout un programme pédagogique. Et puis après, je peux donner un autre exemple, peut-être plus sur le volet solaire aussi, où là, par exemple, on peut prendre l'exemple dans les Mauges, sur un ancien site de déchetterie, on a un collectif de citoyens qui est venu investir aux côtés des collectivités territoriales pour financer la mise en place d'un parc solaire au sol de plusieurs hectares pour produire de l'énergie, mais aussi du coup revaloriser un site pollué et puis encore une fois faire rentrer ça dans une dynamique de créer de la richesse pour les habitants du territoire et toujours réorienter une partie des bénéfices vers des actions de pédagogie et de sensibilisation.
Ça marche. Et alors, ici, on organise aussi des groupes de travail. Alors, c'est pareil, des groupes de travail citoyens. Mais en quoi ça consiste plus spécifiquement, du coup, en quoi ça se détache des autres actions menées par RSI?
Donc, le groupe de travail, ça va être, quand on a une problématique donnée, on va s'y attaquer et on va se mettre autour de la table avec des bénévoles, avec des élus, avec des gens des services, pour tenter de travailler à cette problématique-là.
D'accord.
Donc, ça va de trucs plus orientés communication. Par exemple, on a fait un argumentaire sur l'éolien, pour essayer de contrer certaines idées reçues autour de l'éolien. Et puis, si je donne un autre exemple... On a fait un autre groupe de travail plus interne sur quels sont les outils d'investissement qui peuvent aider les citoyens aujourd'hui à investir dans la transition énergétique.
Ça marche. Et est-ce que vous avez des partenaires alors qui vous permettent de financer toutes ces actions?
Oui, donc nous, comme je dis, on est financé par l'ADEME, la région et le département de Loire-Atlantique.
D'accord.
On est en train aussi de sécuriser des financements européens. Mmh. Et puis après, on a les cotisations de nos adhérents. Donc nos adhérents, ça va être des associations de collectifs citoyens, des sociétés qui ont été créées par ces collectifs-là pour porter les projets, et puis des collectivités territoriales.
Okay. Est-ce que votre champ d'action, en fait, il s'étend à quelle échelle, en fait ?
Régional.
Régional, d'accord. Alors le 5 avril est organisée une table ronde à l'amphi Mersenne de l'Université du Mans qui porte sur l'acceptabilité dans le cadre des projets d'énergie renouvelable. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est en fait l'acceptabilité ?
C'est une bonne question et c'est un terme un petit peu valise qui est du coup difficile à définir, mais ce serait la notion qu'on peut faire accepter des projets, qu'ils auraient un degré d'acceptabilité auprès des habitants du territoire. Mmh. Et c'est vrai que nous, on prend des pincettes avec ce terme-là parce que on est approché parfois par des industriels ou même par des collectivités qui veulent intégrer les habitants du territoire et les citoyens dans leur projet pour le faire accepter.
D'accord.
Et en fait, nous, on n'est pas là pour faire accepter un projet, mais on est là pour le travailler pour qu'il soit le mieux intégré possible dans son territoire. Donc parfois, ça peut résulter dans une meilleure acceptation par les habitants du territoire, mais c'est pas toujours le cas. Voilà.
Ok. Et alors, quels seront les différents intervenants lors de cette journée ?
Alors, lors de cette journée, on aura un volet un peu plus recherche avec Cyria Elianoff de l'Université de Rennes, qui pilote un programme de recherche autour de la question des énergies citoyennes, donc il pourra nous faire un retour là-dessus. Et puis après, nous, on fait aussi intervenir des porteurs de projets de la région. Donc on aura Michel Carré d'Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine. Donc ça, c'est l'exemple autour du Pays de Redon dont je vous parlais juste avant.
Okay.
On aura Christian Quinton qui a été maire d'une commune en Mayenne et qui a porté aussi le lien avec un collectif citoyen là-bas qui a abouti à la création d'un parc éolien citoyen et à l'investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros par les citoyens du territoire. Et puis on aura Martine Richardot, qui est elle membre d'un collectif qui s'appelle Toi au Soleil, qui est actif autour de Saint-Nazaire et qui investit sur des projets en toiture. Donc par exemple la tribune d'un stade de rugby ou encore la toiture d'un Emmaüs.
D'accord, oui.
Qui ont été équipés grâce à l'investissement des habitants de la région nazérienne et au travail du coup de Martine et de son collectif.
Et alors qui est invité du coup à participer à cette table ronde?
Et donc en termes de participants, la conférence est ouverte à toutes et tous. Nous, on a notre assemblée générale le matin même qui va drainer du coup du monde d'un peu partout dans la région. Donc c'est vrai que c'est un super moment pour venir rencontrer les porteurs de projets de la région. On s'assurera qu'il y ait des temps de discussion. Et après, dans l'amphithéâtre Mersenne, pour cette table ronde, peuvent venir ceux qui sont curieux du sujet, qui veulent découvrir un peu des possibilités d'action, sachant qu'on a des collectifs qui naissent un petit peu partout dans la Sarthe en ce moment.
D'accord.
Et donc, il y a possibilité de rejoindre ces collectifs et peut-être demain aussi de les aider à financer leurs projets pour avoir des initiatives citoyennes aussi dans le 72.
Mmh. Oui, parce que quels sont en fait les avantages d'un projet d'énergie renouvelable citoyenne en fait ? Pourquoi les citoyens devraient s'engager dans ce genre de projet ?
Alors, les gens qui vont s'engager dedans, ils vont le faire pour différentes raisons qui leur sont propres, mais il y a des choses qui se dégagent. Déjà, il y a une notion de transparence autour de ces projets-là, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder et comprendre à toutes les décisions qui sont prises. N'importe qui va pouvoir prendre une part dans la société qui possède le projet, et donc avoir voix au chapitre à l'Assemblée Générale chaque année pour décider de qu'est-ce qu'on fait des bénéfices, de décider de, par exemple, si je prends un autre exemple dans le pays de Redon, par rapport au parc éolien, il y en avait un qui faisait un peu trop de bruit. Il y a après une concertation après les riverains, du coup, ils avaient décidé de brider sur certains horaires ce parc éolien-là. Bah, c'est vrai que c'est une concertation qui est peut-être pas possible si c'est un fonds d'investissement américain qui est propriétaire du parc éolien à côté de chez vous. Donc en fait, ça vient renforcer ça.
Donc c'est un mode d'action qui est très démocratique en fait au final.
Voilà, c'est ça. Et puis ça va créer du lien entre les habitants du territoire de manière positive. C'est vrai que ça peut être un petit peu accablant parfois, on va dire, hein, autour de la lutte contre le réchauffement climatique, on ne sait pas trop par où commencer.
Ouais.
Et donc nous, on s'adresse aussi à des gens qui font déjà souvent des efforts dans leur quotidien individuellement sur la transition écologique, mais qui ont peut-être besoin de se rebooster et de trouver un élan collectif là-dedans. Et donc nous, on est aussi un lieu de sociabilité où des gens engagés se retrouvent pour aller encore un peu plus loin et créer des projets que eux trouvent exemplaires et dans lesquels les gens pourront après facilement investir. C'est-à-dire que il y a de quoi accueillir des gens de tout type d'engagement. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, selon ce que les gens sont prêts à mettre.
Et alors, est-ce qu'il est possible de rejoindre Récit ? Et si oui, de quelle façon ?
Alors le mieux, je pense que ce serait de rejoindre un collectif citoyen près de chez vous, d'investir dans un projet citoyen près de chez vous. Donc pour ça, nous, il y a une carte sur notre site internet qui répertorie toutes les initiatives de la région. Et donc ce que j'invite à faire, c'est d'aller voir cette carte et puis de voir quelle est l'initiative la plus proche et de prendre contact. Et après, nous, les animateurs de Récit, on est aussi là pour répondre. Donc s'il y a une prise de contact, vous pouvez nous contacter aussi via le site internet. Et puis on pourra vous réorienter vers le collectif le plus proche, ou du moins échanger un peu sur ce qui serait possible de faire au niveau énergie citoyenne pour vous.
Ça marche. Et enfin, est-ce qu'il y a des projets à venir concernant Récit que vous voudriez nous annoncer ?
Ouais, je peux annoncer. Donc, sur le sud-est manceau, on a un collectif qui s'appelle Sartwatt, qui est en train de rechercher des toitures. Donc là, ils ont plusieurs pistes pour faire un premier projet photovoltaïque citoyen. Donc le but, là, ça va être de venir louer la toiture d'un hébergeur, donc ça peut être une entreprise, une collectivité, et d'investir ensemble pour y mettre des panneaux photovoltaïques.
Okay.
Et c'est aussi un concept qui existe dans le Pays Vallée du Loir, près de La Flèche notamment. Il y a une association qui s'appelle Soleil du Loir, qui porte des projets de ce type-là, et aussi des projets au sol sur des friches, notamment de terrains pollués. Et donc là, on a des projets qui sont en cours et qui devraient sortir prochainement.
Eh bien, merci beaucoup Joachim Duval pour nous avoir parlé du réseau Récit et de sa table ronde le 5 avril à l'Amphi Mersenne. Merci beaucoup.
Merci.
On fait une pause pendant laquelle vous pouvez toujours gagner des places pour Loïc Lantoine et The Very Big Experimental To Be Free Orchestra le vendredi 19 avril à 20h au Grand Théâtre des Quinconces en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Eiffel à tout moment la rue.
Chacun d'un eau souffle au moindre murmure des bas-fonds. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front. La faune et la flore à grand rayon. Et l'éclat de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. À tout moment la rue peut aussi dire non. La rue peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie. Quand la nuit remue aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple rêve, à tout moment la rue peut aussi dire. Quelques points noirs en col blanc poivre nos yeux, dont les occultes en tube long et creux. À bien compter le monde éthique se voit plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment elle peut aussi dire non. Comment oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie. Quand la nuit remue aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple rêve, il aime disposer de lui-même. Disposer de chevelus, à toutes ces nuits qui nous lient. Et même si elles ont trop bu, c'est aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple crève, à tout moment la rue peut aussi dire. À chacun de nos souffles au moindre murmure des bas-fonds, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle. Que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non.
Et on s'écoute un dernier morceau pour finir cette émission. Tout de suite, c'est Jeanne Adède, Mutate.
Thank you.
Merci d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve ce vendredi 5 avril pour un nouvel épisode de ma sonographie, la deuxième partie de l'épisode sur la chanson française. J'avais en effet dû éliminer un certain nombre d'artistes par manque de temps. Je me suis donc dit qu'un deuxième épisode était nécessaire. Vous découvrirez donc encore bien des choses dans la chanson qui met à l'honneur le texte en français. A bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.